combattant virtuel. Welcome sur le forum de révolution.com, de l'action par email, des pavés en pixels, la souris se déplace et se bouge à ta place.
Poussière de toi dans l'infini moi, Love, 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 love-moi. Infinis-moi jusqu'où tu n'en pourras. Love, 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 love-moi. Sur les abats des fracas, des ébats. Love, 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 love-moi.
L'émission et le spectacle continue, et aujourd'hui nous sautons dans l'inconnu avec l'incroyable duo Élise Caron, jeu scénique, chant et flûte traversière, accompagné par Édouard Perrault à la batterie et aux effets sonores. Ce duo était programmé dans le cadre de Home Factory, une association musicale basée à Rouen qui permet à certains artistes de la scène jazz de se produire pour quelques dates autour de Rouen. Derrière l'association Home Factory, le musicien et contrebassiste Thibaut Cellier, qui programme par ailleurs chaque année le Pacific Festival. À l'origine au début de l'été, et depuis 2025 programmé à l'automne. Je vous propose de retrouver quelques extraits du concert du duo Élise Caron-Édouard Perrault, ainsi qu'un entretien enregistré à l'issue de leur concert, c'était au Mot Éphémère, en face de la scène à Rouen. Dans cet entretien, nous parlerons notamment de la question de ne pas se répéter en improvisation, et nous aborderons aussi la magie. Il est assez rare aujourd'hui d'aller à un concert sans que ni le public ni les musiciens ne sachent ce qui va être joué et entendu. Et c'est pourtant ce qui s'est passé ce soir-là, Élise Caron nous raconte. Élise Caron, bonsoir.
Bonsoir Philippe.
Ce soir, c'est un duo qui dure depuis pas mal d'années maintenant. Vous avez fait deux disques avec Édouard Perrault.
Oui, on existe depuis 2008. On est passé un peu par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puisqu'on a eu une série à un moment donné où on se voyait un peu trop souvent. C'était peut-être tous les 15 jours et on avait une tournée. J'avais peur de ne pas arriver à me renouveler. Et puis c'est Joël Léandre à qui je disais ça, et qui m'a dit, mais de toute façon, notre vocabulaire, c'est notre vocabulaire. Après, c'est comme un alphabet, c'est toujours les mêmes lettres, c'est toujours à peu près les mêmes mots, mais c'est la façon dont on les agence qui fait qu'on raconte quelque chose de différent à chaque fois. Et c'est pas parce que je suis avec quelqu'un que je dois m'enfermer dans ma peur de refaire la même chose, parce que à deux, de toute façon, c'est toujours différent. Et c'est ça que j'ai appris là au début de nos pérégrinations. Si on sait qu'on joue avec l'autre, on joue avec l'autre, point barre, quel que soit ce qu'on fait. On joue, quoi. Et on joue à deux, c'est vraiment... C'est comme du ping-pong, quoi. Quand on dit impro... Une improvisation, c'est toujours différent par essence. L'improvisation, c'est pas un truc, quoi. c'est pas de la musique écrite. Donc, dès l'instant, c'est pas de la musique écrite et que notre instrument, c'est jamais que le sien. C'est-à-dire, moi, j'ai deux cordes vocales, mais ça fait qu'un son ou deux à la limite quand je me débrouille bien. Mais c'est quand même un instrument très très nu. Je peux pas faire d'accords. Je peux délirer avec des voix différentes ou des trucs comme ça. C'est ça que je suis allée investiguer, aller chercher des voix de différentes ethnies, avec des accents ou ce que j'imagine être une langue que j'improvise, que je devine parce que j'ai l'oreille attentive à tout ce qui m'entoure. Et il y a beaucoup d'accents dans le monde et on en croise pas mal, ne serait-ce que dans le métro. On entend plein d'accents différents. C'est vachement intéressant à se demander même de quoi il parle, quoi. C'est rigolo à faire. Mais au tout début, justement, j'étais un peu coincée dans l'idée d'absolument ne jamais refaire la même chose. Or je suis quand même limitée malgré tout, malgré mon envie d'évasion totale, je suis limitée. Mais là où je ne suis pas limitée, c'est dans le fait de creuser un sillon dans ce périmètre qui m'est alloué, je dirais, et de creuser, et d'avoir la liberté de creuser plus profondément ou d'être de plus en plus léger ou de plus en plus... Enfin voilà, c'est sur les profondeurs de les couches. Profonde, j'ai l'impression d'être encore sur scène à te dire n'importe quoi.
Il y a une belle diversité dans ce que vous avez proposé ce soir, notamment.
Je me fends. je me fends de proposer. Mais parce que moi-même, je veux aller voir ce qui se passe si je prends des risques aussi. Plus de risques, toujours. Et puis aussi parce que Edouard, et nous sommes le spectateur l'un de l'autre aussi. C'est-à-dire que je le provoque. Il me provoque et par exemple, il a fait des trucs ce soir qu'il n'avait jamais fait.
Par exemple ?
Bah, il s'est mis à chanter avec moi, par exemple. Et ben, c'est charmant d'être surpris par son partenaire. Voilà, ça fait partie aussi de la liberté qu'on s'octroie et puis de l'exigence qu'on peut attendre. De soi et qu'on imagine du public, de ne pas lui proposer des ficelles, même si les fils sont toujours plus ou moins les mêmes, mais pas des ficelles.
Nous sommes toujours en compagnie de Élise Caron, homo éphémère à Rouen, sur les quais, à côté de la Seine, ici. Rouen, c'est un petit peu votre ville où vous avez passé une partie de votre enfance, il me semble, puisque vous étiez au CNR de Rouen.
Oui, absolument. Je suis arrivée à Rouen en 1970. J'ai fait toute la fin de ma scolarité et de conservatoire. Et les horaires aménagés jusqu'à mes 18 ans.
C'était au niveau du chant, de la flûte, au niveau de la comédie, c'était quoi exactement ?
C'est exactement ça. J'ai commencé par la flûte et puis après j'ai fait du chant et j'ai fini par la dramatique.
On est heureux d'avoir pu offrir notre prise de risque et de laisser le public se mettre les doigts dans la prise de risque.
Donc Edouard Perrault qui nous a rejoint à table, on est toujours au mot éphémère à côté de la scène à Rouen. Vous avez déjà joué à Rouen ?
Oui, à Rouen.
Le 106 est juste à côté. Ouais.
Le 106, le hangar 23 avec Élise et Joël Léandre en trio. À Rouen, j'ai fait plusieurs trucs aussi avec le comédien qui est du coin, Philippe Torreton. On avait fait un truc sur Alain de Prest. Pas mal de choses en fait. J'avais même participé à une pièce de théâtre de Yon Faux où on avait joué dans un quartier de Rouen où il y a des choses de théâtre dans une chapelle.
Oui, la chapelle Corneille.
Exactement, une pièce de Yon Faux qui s'appelle Le Nom, où j'avais fait la musique et j'étais comédien aussi.
Ah oui, c'est pas vrai. Si. T'as été comédien, toi, dingue.
Tout peut arriver.
Mais c'était quand
2006.
On ne se connaissait pas à l'époque.
Non. Pas encore. Ouais. On va fêter nos 20 ans dans...
Le 16 octobre 2028.
Ah, c'est précis.
Ouais. Et 16 octobre...
Notre premier concert. Ouais.
16 octobre 2008. Ce qui est marrant, c'est que 2008, c'est l'année de naissance de ma deuxième fille. Mais 16 octobre, c'est le jour de naissance de ma première. Donc c'est un double, triple symbole.
Triple anniversaire.
Et puis c'est aussi le 16 octobre, c'est la fermeture du CBGB à New York, le grand club de rock. Voilà. Non, mais sinon, on est là ce soir. On a vibré avec un public rouennais aventureux. Et donc on a poussé le bouchon.
Alors, si j'ai bien compris, donc le 16 octobre 2008, vous ne vous connaissiez pas du tout ?
Non. Je l'ai vu, moi, en concert en avril 2008. Il était en trio avec Maxime...
Maxime Delpierre ?
Maxime Delpierre et Vincent Courtois.
Ouais. Vincent Courtois.
Et donc j'étais dans le public et je voyais ce mec là qui était avec sa batterie. Et pendant tout le concert, j'avais envie de chanter. Vraiment. Donc je suis allée le voir à la fin du concert et je lui dis ah là là, j'ai vachement aimé. C'était vraiment un super concert. Et ça m'a vraiment donné envie de chanter, quoi. Et alors maintenant c'est lui qui raconte.
Et moi, en fait, c'était. J'avais très envie de jouer avec Élise. Et je la connaissais de nom. Et je la connaissais aussi parce que j'avais enregistré sur un disque de Frédéric Tan où elle chantait, Élise Caron. Et du coup, j'avais bien aimé ce qu'elle faisait. Et puis je la connaissais par ailleurs. Donc c'était génial de se retrouver. C'était comme si...
C'est moi qui raconte. Alors après, donc on se dit ce serait bien que... Et on se retrouve deux jours après dans une fête, tous les deux, totalement par hasard. Et là,
40 ans de Vincent Courtois.
Voilà, c'est ça.
Ah. Et violoncelliste de jazz, ouais, très chouette.
Et on se dit, ce serait génial, prenons rendez-vous pour improviser. Et le lendemain, j'ai appelé le directeur du Triton, Jean-Pierre Vivante, et je lui ai demandé une date qui nous a donné exactement 6 mois après. Et on ne s'est jamais rencontrés entre le moment où on s'est dit qu'on se rencontrerait ce jour-là, et on a fait notre toute première sans avoir jamais joué ensemble, ni répété, ni fait quoi que ce soit ensemble. On s'est trouvé ce jour-là. Je me souviens pas d'ailleurs si c'était un super concert ou pas.
C'est la question que j'allais vous poser.
Je pense que ce qui compte, c'est de le faire, en fait.
Oui.
Je crois qu'on n'est pas dans un... Moi, il y a une phrase de Giacometti que j'adore, qui dit « Peu importe l'échec ou la réussite, ce qui compte, c'est de tâcher de comprendre. » Voilà, voilà sa citation et ce qu'il dit. Et je trouve que c'est vraiment ça, en fait. C'est échouer mieux, comme disait aussi Beckett.
Cela dit, on aurait pu être super déçus. Et on n'aurait pu jamais se retrouver parce que ça n'a pas...
Donc c'est que c'était pas si mal.
C'est ça.
Et à la fois, c'est un pari aussi. Notre musique, elle est basée sur une espèce de pari, de rencontre, de volonté de faire des belles choses, mais sans jamais... Je crois que ce qu'on sait faire le mieux, c'est ce qu'on ne sait pas encore faire avec Elise.
C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Voilà. C'est qu'on essaye de se surprendre l'un l'autre aussi. Enfin, voilà. Des fois, c'est déstabilisant. Hein.
Ouais. Très déstabilisant. Et à la fois, c'est ce qu'on aime.
Déstabilisant pour vous, pour le public, pour qui?
Pour le public, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas à leur place. Je les admire bien plus que nous-mêmes. Mais oui, parce qu'ils sont là, ils ont pris le risque, ils savent que ça va peut-être pas être facile à danser, comme on dit. Mais ils sont là, ils nous suivent, et c'est vraiment le fondamental de sentir une bienveillance et prêt à l'aventure, en fait. Sinon, ça marchera pas, en fait, on peut pas... Et ce soir, il y avait un public nombreux en qualité.
C'est ça, exactement.
Si tu nous écoutes, toi ou là-bas, oh toi là-bas, tu sauras reconnaître le chemin de ta mère. Et dans l'arbre creux de notre enfance, soudain, l'avenir cruel nous tient dans ses griffes. Les griffes de la certitude. Oh toi, mon frère, que je ne connaîtrai jamais. Sache les chevaux de l'aube résonnent aux oreilles de ma conscience malade. Et pourtant, ce qui nous tient dans le cœur résonne. Que je ne connaîtrai jamais. Sache.
Alors, qu'est-ce que vous avez tenté? Qu'est-ce que vous avez pris comme risque ce soir? C'était quoi le risque?
Ça, c'est des choses qu'on ne sait plus, parce que il y a plein de choses qu'on oublie quand on est vraiment dans un truc, et puis on y repense pas tout de suite. Et puis, par exemple, on a fait un concert il y a 15 jours, et puis j'y ai repensé depuis, et puis voilà, selon notre état aussi mental, selon ce qu'on traverse, selon notre santé aussi, il y a on se demande plus ou moins de bienveillance ou d'accompagnement ou d'attention. Parce qu'on n'est pas forcément toujours au taquet pour se balancer dans le vide en étant dans la joie absolue, quoi. Des fois, on tente d'être dans la joie, enfin, d'être vraiment joyeux sur scène, mais on n'y parvient pas dès le départ. C'est aussi parce qu'on se laisse aller, qu'on se dit, voilà, si j'ai mal un peu là, à la gorge, ou si j'ai mal un peu au poignet, je ferai attention après, voilà. Mais en même temps, c'est un peu stressant.